au gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Professeur pendant de nombreuses années à l'université, il s'est fait remarquer par ses méthodes d'enseignement non conventionnelles. Au gré du temps, notre invité a acquis le respect de beaucoup de gens provenant de différents horizons et œuvrant dans plusieurs secteurs. Il a développé une grande complicité avec le milieu des arts. Ayant une rigueur intellectuelle incontestable, il agit comme commissaire pour plusieurs projets d'exposition, dont une qui se déroule présentement et qui met en évidence les œuvres d'une survivante du génocide perpétré par les Khmers Rouges au Cambodge. Avec nous, avec grand plaisir, nous accueillons le professeur Norman Cornett. Bonjour.
Oh, bonjour, monsieur Dubois, et merci de cette invitation.
C'est un grand plaisir que de vous accueillir. J'évoquais ce rôle vraiment assez extraordinaire que vous accomplissez à titre de commissaire d'exposition. Si vous nous en disiez un peu plus long sur ce rôle.
Tout à fait. Donc, je me suis rendu compte que dans le milieu artistique, il existe certes des lieux d'exposition, et du même souffle, je devrais avouer, en tant que critique d'art et éducateur, que j'ai constaté qu'il y avait une certaine chasse gardée. On parle très souvent des artistes émergents ou émergentes. On parle des artistes et je me suis posé la question, est-ce que émergent est un euphémisme pour jeune ? Or, je connais beaucoup d'artistes chevronnés et je me suis dit, mais quand est-ce qu'on va les voir en exposition ? Et j'ai pris la décision de créer un espace pour tous les artistes, peu importe l'âge, peu importe l'arrière-plan, soit religieux, culturel, ethnique, linguistique, ainsi de suite.
Et votre donc, objectif, c'est de faciliter l'interprétation, la compréhension de ces œuvres qui méritent effectivement d'obtenir un espace public.
Tout à fait. Et ça, dans la veine de mes recherches en sociologie de l'art. C'est-à-dire, ma raison d'être comme commissaire, c'est de faire connaître les artistes qu'on ne connaît pas, qu'on devrait connaître.
Il y en a beaucoup, d'ailleurs.
Tout à fait, tout à fait. Et en tant qu'historien de formation, monsieur Dubois, je suis très conscient de l'importance, en 1948, du manifeste Le Refus Global, qui est une pierre de touche dans l'histoire de l'art contemporain, et avec raison. Surtout si on connaissait l'époque de... On est en pleine époque Maurice Duplessis, n'est-ce pas ? Et de ce qu'on appelait autrefois la grande noirceur. C'est une expression fort contestée en historiographie, mais toujours est-il, ça se passait autrement. Aussi, j'ai un grand respect pour Jean-Paul Riopel, qui était en fait chef d'école avec... Paul-Émile Bordua, qui est en quelque sorte la tête du refus global, mais de grâce, l'art au Québec ne s'est pas arrêté avec le refus global, avec Jean-Paul Riopel, avec Paul-Émile Bordua et compagnie.
Et dans un monde d'incertitude, on a vraiment besoin de cette lumière qu'apportent les arts. Et on va écouter aussi beaucoup de musique. Votre choix musical est vraiment formidable. La première pièce que nous allons entendre, c'est les tableaux d'une exposition de Moussorgski. On sait que depuis l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, les manifestations de solidarité se sont multipliées, notamment de la part des artistes et des musiciens. Tous les ménomanes connaissent le dernier des tableaux d'une exposition de Moussorgski, intitulé La Grande Porte de Kiev. Juste une petite note que je précise. Quand on parle de cette grande porte, il s'agit d'un monument construit en 1018 sous le règne de Yaroslav le Sage. Aujourd'hui, on l'appelle la Porte Dorée ou Porte d'Or. Elle fut plusieurs fois détruite et reconstruite. La dernière fois, c'était en 1982. Ça fait pas tellement longtemps. C'était à l'occasion du 1500e anniversaire de la fondation de Kiev. Alors, toute sa vie, le compositeur russe Modeste Moussorgski a lié des amitiés très fortes qui inspirèrent fortement son œuvre. Et on va donc entendre ce premier choix que vous nous présentez, tableau d'une exposition de Modeste Moussorgski.
Orchestré par Maurice Ravel.
Tout à fait, Maurice Ravel, qui a rendu d'ailleurs cette œuvre très populaire auprès du grand public. La visite de l'exposition se termine bien sûr avec la Grande Porte de Kiev, dont la mélodie est inspirée du folklore populaire russe. Alors, ça commence bien, professeur Cornette. Nous voilà maintenant à l'exposition. J'évoquais, lors de la présentation d'émission, cette exposition d'une artiste cambodgienne. Si vous nous en disiez quelques mots, parce qu'elle a vécu, elle, le drame du génocide perpétré par les Khmer Rouges.
Tout à fait, tout à fait. Donc, ce n'est qu'en 1979, lors de l'invasion du Vietnam, qui avait pour conséquence la chute de ce régime-là, qu'elle a pu s'échapper du Cambodge. Elle a gagné la Thaïlande, elle était donc réfugiée politique, et finalement, elle s'est retrouvée ici, à Montréal, au Québec, et son parcours est tout à fait exceptionnel, Monsieur Dubois, et je me suis rendu compte, comme bien des femmes immigrées, qui ne parlaient ni le français, ni l'anglais, elle a commencé son premier emploi, c'était dans des usines textiles, où elle a travaillé pendant des années, mais elle rêvait d'une vie meilleure qu'elle a retrouvée dans les arts.
Et quel est son nom?
Kim Pov Ep, E-A-P.
Et que diriez-vous de l'ensemble de ses tableaux? Qu'est-ce qui ressort essentiellement de son œuvre?
Un imaginaire foisonnant. C'est une artiste qui peut très bien réaliser des œuvres figuratives. Dans l'exposition au Centre Africa, que je tiens à remercier d'ailleurs de nous accueillir, vous allez avoir, oui, des œuvres figuratives, semi-figuratives, mais beaucoup d'abstractions où elle exprime la gamme de ses émotions.
Et évidemment, le drame qu'elle a vécu, elle a dû d'ailleurs s'enfuir, elle a eu une fuite presque douloureuse, pourrait-on dire, en se rendant en Thaïlande avant de pouvoir immigrer ici. Et elle a vu frères, sœurs, amis disparaître. Et j'imagine que tout cela doit transparaître cette douleur et en même temps cet espoir retrouvé de poursuivre sa vie en dépit de ce drame incroyable.
Je tiens à dire haut et fort à l'auditoire d'Au gré du temps de RVM que Kim Pov Ep a fixé son regard sur l'espoir.
Alors
elle célèbre
oui,
la vie.
Elle célèbre la vie. On va enchaîner avec une autre pièce assez extraordinaire interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Ainsi parlait Zarathoustra. C'est bien sûr, on fait référence au poème de Nietzsche. Zarathoustra, c'est le nom de Zoroastre, prophète et fondateur du zoroastrisme, qui était l'ancienne religion perse. Mais dans cette œuvre, on sent toute la puissance, la force de la vie, en quelque sorte, même si Nietzsche a, dans son poème, souvent voulu exprimer une sorte de tempête d'absolu, de force, s'attaquant même à la divinité, et reste que même au cinéma, on a bien sûr en tête ce film de Stanley Kubrick, 2001, Odyssée de l'espace. Alors, on écoute ainsi parler Zarathoustra.
Et gardons en tête qu'il avait composé au 19e siècle, vers la fin du 19e siècle, alors qu'on a l'impression qu'il vient de pondre cette composition tellement elle est neuve à chaque écoute.
Et bien sûr, l'œuvre de Richard Strauss. Thank you. Passeur Cornette, si on poursuit dans la même foulée tout au cours de l'émission, l'heure va passer très rapidement parce que ce sont des propos qui nous rejoignent, mais en même temps, les œuvres musicales que nous entendons sont d'une puissance assez extraordinaire. Vous avez fait un choix assez formidable. Je vais même pas vous demander de commentaires. Je vais enchaîner tout de suite avec la prochaine œuvre parce que elle s'enchaîne tellement bien avec celle que nous venons d'entendre de Strauss. Cette fois, on se déplace du côté russe avec Igor Stravinsky. Je vous laisse nous la présenter.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a, avant la révolution bolchevique, il y avait un révolutionnaire en musique, Stravinsky, avec l'Oiseau de feu. Il bouleverse tout l'échiquier musical occidental.
venez d'entendre le final de la suite Oiseaux de feu. C'était l'Orchestre philharmonique de Vienne sous la direction de Valérie Gerkiev. Avec nous aujourd'hui, le professeur Norman Cornett, bien connu pour son approche dialogique. Qu'est-ce que c'est que le dialogisme?
C'est la rencontre des imaginaires. L'imaginaire de l'artiste, dans le cas présent, l'artiste peintre Kim Pove Epp, et l'imaginaire des visiteurs de l'exposition survivre et s'épanouir au centre Africa.
Avez-vous l'impression, quand on parle de dialogisme, vous avez souvent dit que c'est apprendre à dialoguer d'une autre façon, d'être peut-être davantage à l'écoute de l'ensemble de ceux qui émettent des opinions et non pas rester sur ses positions et tenter d'argumenter pour gagner son point. C'est peut-être une plus grande ouverture à l'égard des opinions des autres.
Tout à fait. Et je me souviens de ce que disait le pianiste jazz hors pair Oliver Jones lors d'un atelier dialogique que j'ai présenté avec lui. Il m'avait conté qu'il allait lui aussi dans les musées, dans les centres d'art, et que quand il était devant une œuvre, il restait là tant et aussi longtemps qu'il fallait pour l'entendre, pour être à l'écoute de ce tableau. Donc, je voudrais bien communiquer à l'auditoire d'Au gré du temps et de RVM. Kim Pove Epp est une artiste de peu de mots. Son langage est visuel. Son vocabulaire est artistique. Ce qu'elle a à dire, elle le dit par ses œuvres. Qui plus est, et là je pense en termes de Paul Verlaine, le poète français, il parlait de l'indicible. Eh bien, après tout ce qu'elle a vécu, le traumatisme du génocide au Cambodge, Kim Pove Epp exprime l'indicible par ses œuvres.
Est-ce que ses œuvres sont sombres ou lumineuses?
Surtout lumineuses, parce qu'elle a pris une décision, Monsieur Dubois. Elle a pris le choix de vivre et de profiter de la vie. Tout ce qu'elle a vécu lui a profondément marqué au point qu'elle a pris, elle s'est fixée, elle garde le cap sur la vie et de se réjouir dans la vie. D'ailleurs, puisqu'on parle de la musique classique, la musique occidentale, on n'a qu'à penser à Richard Wagner. Et les opéras, et dans les opéras de Wagner, les opéras wagnériens, on parle des leitmotifs, c'est-à-dire un motif, une thématique qui vient, qui revient et qui vient encore. Eh bien, quel est le leitmotif de Kim Pove Epp? C'est la joie. S'il y a un mot qu'elle prononce à maintes et maintes reprises, c'est la joie de vivre.
Alors, on va écouter une œuvre, je ne mentionne pas le titre, et vous me direz ensuite quel était le leitmotiv de son compositeur en écrivant cela. Thank you. On vient d'entendre, bien sûr, le premier mouvement, l'Allegro con brio de la symphonie numéro 5 en do mineur, opus 67 de Ludwig van Beethoven, interprété par l'Orchestre philharmonique de Berlin sous la direction d'Herbert von Karajan. Alors, je vous pose la question, professeur Cornette. Quel aurait été, selon vous, le leitmotiv de Beethoven?
C'est que Beethoven, il vouait un grand respect pour Joseph Haydn, et certes pour Mozart, Amadeus Mozart, mais il voulait faire autrement. Il ne pouvait pas rester là. Il fallait qu'il se déchaîne, qu'il se libère. Et gardons en tête, quand il a composé, on est en pleine guerre à cause de Napoléon. Oui. Donc, il a tout explosé, éclaté par sa musique, et ça reflète, ça miroite l'époque des guerres de Napoléon, mais dont il était lui-même.
Allez-y. Oui. Non, mais j'allais dire, cette introduction tellement bien connue à travers le monde de cette symphonie numéro 5, on l'a tous en tête, est-ce que ça n'exprime pas un son retentissant, un son de colère, un cri de douleur?
Je dirais, et trop ironiquement, en refus global. Un refus global de la part de Beethoven, parce que, gardez en tête, il avait composé une symphonie qu'il allait dédier à Napoléon, qui au début se présentait comme le grand libérateur. Or, Beethoven a très bien vu cette liberté, ce n'est que des chaînes.
Qu'est-ce qui vous a amené, vous, professeur Cornette, parce que, bon, vous avez fait un doctorat sur Lionel Groulx, je crois, et vous avez souvent soulevé la manchette par votre approche non conventionnelle de l'enseignement lorsque vous étiez à l'Université McGill. Qu'est-ce qui a fait que, dans votre parcours, vous êtes devenu un peu ce grand sage qui essaie de rendre les arts visuels particulièrement, et même la musique, plus accessibles à tous et à toutes?
Mais je dirais, dans un premier temps, je me suis rendu compte, puisque je mène des expériences en pédagogie, je me suis rendu compte, monsieur Dubois, que certes, on apprend en lisant un livre, mais les êtres humains, nous sommes pluridimensionnels. Donc, ce n'est pas seulement par la lecture qu'on peut apprendre, mais on peut apprendre par l'écoute, on peut apprendre par le toucher, on peut apprendre par l'auditif, olfactif et tout ça. Et ça me renvoie au philosophe britannique, anglais, John Locke, de la fin du XVIIe siècle, donc les années 1600, qui lui a créé, c'est lui qui a créé l'expression tabula rasa. Il disait que le cerveau humain, c'est carte blanche, c'est une feuille blanche, il n'y a rien écrit. Tout ce qu'on écrit sur le cerveau, on l'écrit par les sens, tous les sens qui sont à notre disposition. Donc, je me suis rendu compte que dans mon approche dialogique, dans cette pédagogie dialogique, je favorise une approche plurisensorielle, de sorte que la musique fait partie intégrante de mes cours, des ateliers dialogiques, des rencontres dialogiques, des séminaires, des conférences, et aussi les arts visuels. Et je vous donne un exemple, monsieur Dubois. Mes étudiants et étudiantes étaient découragés par la situation écologique de l'environnement. Et je me suis dit, si je ne fais que leur faire lire à quel point ça va mal dans le monde au point de vue écologique, de l'environnement. Ils vont se désespérer. Comment est-ce que je pourrais leur donner de l'espoir? Eh bien là, je leur ai présenté les films de Frédéric Bach, l'homme qui plantait les arbres, le grand fleuve. Et lui, ce cinéaste oscarisé à plusieurs reprises en nomination. Et après avoir étudié les films de Frédéric Bach, mine de rien, Frédéric Bach lui-même entrait dans la classe et puis dialoguait avec mes étudiants et étudiantes parce que je voulais surtout leur donner de l'espoir. Au lieu de se décourager, mais dire voici ce qu'on peut faire. On peut poser des gestes concrets vis-à-vis l'écologie et l'environnement au lieu de baisser les bras et dire mais c'est fini, la scène écologique est c'est l'apocalypse. Non, il faut surtout transmettre, communiquer. Quand on passe le flambeau, il faut qu'on leur passe de l'espoir.
Un mot rapidement sur votre prochaine sélection, la pièce de Felix Mendelssohn.
Oui, c'est que Mendelssohn, il a su capter la cadence des marées dans la grotte. Et tout est en mouvement, tout est dynamique dans cette pièce. Et ce dynamisme, eh bien, ça nous motive. On veut agir à l'écoute.
Alors, l'ouverture Les Hébrides, interprétée par l'Orchestre symphonique de Londres sous la direction de Claudio Abbado. Professeur Norman Cornette qui est avec nous aujourd'hui, ben ça passe tellement vite qu'il va falloir vous inviter la semaine prochaine pour poursuivre le dialogue. Mais quel choix musical extraordinaire. D'ailleurs, si vous voulez bien, on va terminer l'émission avec un autre choix qui provient de votre part. C'est d'ailleurs le grand pianiste Lang Lang qui est au piano. C'est une pièce de Debussy. La suite Bergamas, le clair de lune. Clair de lune qui va nous laisser probablement rêver aux propos que vous nous tiendrez la semaine prochaine.
Tout à fait. Gardons en tête que Debussy, c'est lui qui fait l'école française de la musique fin du 19e, début 20e siècle. Et en fait, clair de lune, c'est sa réponse à Wagner, à Bruckner, à cette musique allemande lourde, et je tiens à garder, puisqu'on est en temps de guerre, lors de la Première Guerre mondiale, Claude Debussy avait pris la décision de signer ses compositions « Claude Debussy, artiste français ».
Le temps de vous dire que cette émission a été réalisée sous la supervision de notre gentil technicien Lysandre Duplay. On écoute cette suite Bergamas, Clair de Lune, et on se retrouve la semaine prochaine avec le professeur Norman Cornett, et on parlera de la situation qui se déroule en ce moment dans le monde, un monde un peu tendu depuis l'avènement de ce président pour le moins non conventionnel chez notre voisin du Sud.